faire corps et unisson dans la meute. Voilà une belle manière de conclure cet entretien et cette performance que donnaient Maud Veilleux et Delphine Boitéché le 9 novembre 2020 au lieu unique déserté mais en streaming à l'initiative de la Maison de la Poésie. Mesurer ce qui nous sépare, c'était le titre de cette performance croisée des deux poètes. Et c'est dans le cadre de cette vaste émission Hommage à Delphine Boitéché récemment disparue que vous était rediffusé cet entretien réalisé pour l'émission Esperluette sur cette même antenne entre les deux poètes et puis ces quelques extraits donc de la performance Mesurer ce qui nous sépare. Il nous reste pour terminer cette émission Hommage à écouter, et c'est comme une boucle puisqu'on revient à la radio, les souvenirs radiophoniques d'auditrices et puis de praticienne de Delphine Boitéché. J'étais allé la questionner le 20 novembre 2020 dans le cadre d'un projet autour de Bifurcation, ce festival porté par l'association La Tangente et Yves Arquet, dont on a écouté un texte tout à l'heure. Festival dont la 6e édition conviait Anthony Poirodo, qui lui-même conviait différents artistes à partager avec lui de la littérature. Delphine Boitéché en faisait partie. Et vu les nombreux reports et les quelques confinements qui ont empêché le festival d'avoir lieu en temps et en heure, c'est-à-dire en novembre 2020, eh bien, il avait été question de produire un certain nombre d'éléments, de choses pour faire patienter les gens. Et m'était venue l'idée de questionner les invités du festival sur leur lien à la radio et à la radiophonie et leurs souvenirs radiophoniques. Delphine Boitéché compte donc deux épisodes de cette série baptisée Histoire de radio que nous allons écouter in extenso, un peu plus d'une trentaine de minutes, qui raconte aussi son parcours très fortement, émaillé de quelques extraits sonores. Et avant de l'écouter, je tiens à remercier très chaleureusement les personnes qui se sont investies très rapidement autour de moi pour rendre cet hommage radiophonique qui n'est qu'imparfait, encore une fois, on l'aura dit, mais il reste beaucoup à dire, à creuser et à promouvoir du travail de Delphine Boitéché. Beaucoup de choses arrivent et arriveront. Merci donc à Éric Pessan, Laurence Villaine, Anthony Poirodo, Hélène Gaudy, Xavier Mussa, Yves Arquet, Elodie Caraki, Adrien Ménien, Pascaline Vallée et les nombreuses personnes qui n'ont pas pu ou su immédiatement réagir mais qui souhaitaient être présents, et tous ceux que je n'ai pas eu le temps de contacter mais qui potentiellement auraient des choses à dire et à partager autour du travail de Delphine Boitéché. Histoire de radio, donc deux épisodes à suivre pour terminer complètement cet hommage à Delphine Boitéché sur Jet FM ce mardi 11 janvier.
Histoire de radio.
Le flux, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour la radio. Mais tu vois, en pensant ça, en définition, en fait, il y a des radios. C'est ça qui est assez extraordinaire avec ce médium. De quelle façon est-ce que la radio va fonctionner et se transforme ?
Delphine Boitéché.
Je peux m'en souvenir sans savoir ce que c'était, mais ma mère écoutait les fictions sur France Culture. Et mon père était comment dire, passionné de musique. Donc il avait, je dis ça par rapport au son de la fiction, c'était pas sur un transistor, ça passait par les enceintes, qui étaient deux cubes énormes, puisque mon père avait reçu ses enceintes en kit. Moi je suis née en 72, donc voilà, c'est la grande époque. Donc il avait reçu ça en kit, et puis donc il y avait l'ampli, il y avait le tuner, il y avait tout ça. Et donc pendant les fictions, ma mère tricotait, et il ne fallait pas faire de bruit puisqu'elle écoutait les histoires. Et je me souviens de la façon dont elle était absorbée par les histoires, et je me disais, mais quel est ce truc qui a le pouvoir d'absorber, alors ma mère, effectivement, de cette façon-là. C'est un rapport d'enfant aux histoires. C'est-à-dire que moi, j'allais énormément à la bibliothèque. Je prenais... c'est vraiment les premiers souvenirs. Hein. Mais dans ces premiers souvenirs-là, c'est des livres... Et ma mère disant, mais tu crois que celui-là, tu vas comprendre? Et la bibliothécaire disant, mais vous inquiétez pas, les images sont jolies, enfin bon, bref. Et donc j'étais devant des trucs que je comprenais pas, Mais les images étaient assez incroyables. Et puis, ben, comme j'étais petite, les livres étaient très grands. J'avais écrit par rapport à ça un texte pour le livre qui avait été édité par, je crois, Joca Seria, initié par la librairie La vie devant soi, avec Charlotte Desmousseaux, qui avait demandé des livres par rapport au rapport, voilà, à la lecture. Et j'avais parlé de cet endroit-là où, petit, les livres sont grands et où on lit à plat ventre, avec le ventre plus ou moins directement sur le parquet, sur le carrelage, voilà. Et donc cette histoire d'être plongée dedans, et il y avait ce rapport-là à la radio. Alors, en fait, le rapport à la fiction, je ne sais pas si c'en était un, parce que je voyais bien le rapport de l'adulte à la fiction. Je voyais bien ma mère absorbée par. Par contre, c'était un rapport à la voix, parce que l'histoire, moi, je ne la saisissais pas. Par contre, il y avait des gens qui parlaient, voilà, dans le poste. Enfin, voilà, il y avait des gens qui parlaient.
Ah ben, ma voix, je ne sais pas. Ben oui, je suppose. Ben, à vrai dire, je ne me suis jamais posé la question. Elle tient la maison, elle s'occupe de tout. Oh, et puis, je peux vous affirmer que... elle est beaucoup plus douée pour la cuisine que pour la comptabilité. Quelle heure est-il ?
Oh, à peine 10 heures.
À peine ? C'est vous qui le dites. D'habitude, à cette heure-ci, moi, je suis pas loin de me mettre au lit.
Justement, pour une fois que vous faites une exception, autant aller jusqu'au bout.
Jusqu'au bout ?
Les maîtres du mystère.
On avait un petit magnétophone à la maison, celui qui, alors que les moins de 30 ans, quoique ça doit exister encore, avec les, voilà, il y avait une cassette, donc c'était la même pièce rectangulaire avec le haut-parleur, la cassette, et puis après les touches, les petites touches, et donc il y en avait deux à appuyer en même temps pour enregistrer, et donc moi je pouvais pas faire ça avec deux doigts, parce que les doigts n'étaient pas assez forts, chacun espacé, donc c'était avec deux pouces, et je faisais ça avec ma sœur, et on a 14 mois d'écart avec ma sœur, on est proches, on enregistrait sur la table de la cuisine, dans le HLM, puisque nous habitions à HLM, 4e étage, rue des Sables d'Olonne, à Nantes. Et on avait une table de cuisine qui était en bois, et notamment il y avait une barre transversale entre les deux pieds. Et donc ce qu'on avait fait avec ma sœur, on avait inventé une histoire, donc effectivement cette idée d'histoire. On invente une histoire, on la raconte, pour enregistrer, mais on faisait les bruitages. Et on avait découvert que si on tapait des pieds sur cette barre-là, qui résonnait un peu en fait, puisque c'était une barre de bois, eh bien on avait l'impression que des gens couraient dans les ruelles. Et là, ce moment-là était assez extraordinaire, de quelle façon le son pouvait ouvrir des espaces. Et alors ça nous... Je ne me souviens pas du tout des histoires, mais je me souviens de cette idée de courir et qu'en tapant sur un morceau de bois, et bien tout d'un coup, en réécoutant, on était... Alors je dis une ruelle, hein, parce que moi, c'est l'image que j'avais. On était en train de courir à fond dans une ruelle, quoi. En fait, c'est tellement... c'est tellement mêlé. Pour moi, j'ai l'impression que je suis dans mes tout premiers souvenirs, même avant, c'est déjà là, cette idée. Alors, pas d'écriture, hein, bien sûr, mais je me souviens, mais comme beaucoup d'enfants, d'avoir scotché devant un litre de lait en me disant « Un jour, je vais lire tout ce qu'il y a sur cette boîte ». Et je regardais les lettres dans les yeux, et eyes to eyes, face to face, un jour, je te lis, quoi. Et il y avait vraiment cette idée d'autres mondes à conquérir. Et j'ai vraiment eu conscience de ça, tout de suite, du pouvoir que ça pouvait avoir, de transposer ailleurs, dans un autre espace. On tape sur du bois et tout d'un coup, on court dans une ruelle. Donc, on peut être ailleurs. On peut construire un monde. On peut s'échapper. Il y a eu un... Alors si, peut-être qui va avec ça, il y a eu un rapport au silence, en fait. Quand j'étais... je devais avoir 8 ans, et mes parents ont fait un voyage, donc camping-car aménagé, l'année 80, donc camping-car Volkswagen aménagé, les petits combis, voilà. Et puis il y avait mon oncle et ma tante avec deux cousins, le même petit combi blanc avec la roue de secours devant, enfin voilà. Et 9 mois de voyage aller-retour hein, vers le Cameroun et traversée du désert. Alors c'est excellent parce que pas de portable, rien. En fait, c'est assez génial d'y repenser aujourd'hui. Et le désert. Et avec le désert, un curseur de son sur un silence qui n'existe que là-bas. Et je pense que ça m'a profondément marqué. Je sais que ce silence-là existe, et que donc il y a des... C'est une qualité de silence, et que donc sous tout ce que je peux entendre, il y a un silence qui existe là-bas. Enfin voilà, pour te dire de quelle façon ça met en relief les sons qui sont nés ensuite. Et la radio m'a toujours accompagnée. Toujours accompagnée... jeune adulte, je vais à Paris. J'ai une chambre de bonne. Et là, j'ai la radio, par exemple. Ça devait être un transistor, évidemment. À l'époque, ouais, ça devait être un transistor, parce que les cassettes que j'avais, c'était pour le répondeur. Mais c'est une cassette que j'ai conservée, par exemple. Donc, s'il y a un rapport à l'enregistrement de la voix, enfin, c'est dans mon travail, la voix revient vraiment beaucoup. C'est-à-dire que sur ces répondeurs, il y avait deux cassettes. Il y avait une cassette sur laquelle tu enregistrais ton message d'absence et une cassette sur laquelle les gens laissaient leur message. Donc, tu avais un truc qui clignotait, tu rembobinais et t'écoutais le message qu'on venait de te laisser sur une bande magnétique. Donc, c'était assez super. Et par rapport au son, toi, je me souviens du son de ces cassettes-là, qui avait un son particulier, en fait. Le son du boîtier quand tu les ouvres, le son entre elles, parce que c'est ces petits rectangles de plastique assez sonores, quand même. Et le son qui va autour, la cassette toute seule, c'est aussi le son quand tu la mets dans l'outil qui va la lire. Enfin, le fameux combi Volkswagen, il y avait un radio cassette, par exemple. Et mon père avait des cassettes de jazz, par exemple. Et s'il partait du camion, il mettait une cassette et il disait on est revenu avant la fin de la cassette. Donc, Denzel Washington, tu vois, Louis Armstrong, c'était le monsieur à la grosse voix. Bref, une cassette et il sera revenu avant la fin de la cassette. Donc, tu vois ce rapport au son qui peut à la fois voilà, te faire t'échapper, te rassurer et en tout cas proposer un espace très très particulier.
Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever.
Donc dans la chambre de bonne, il y avait la radio et je participais parfois à des émissions en appelant. Et donc c'était mes premiers passages à la radio chez Daniel Mermet. Où il avait demandé aux auditeurs si on trouve un vaccin contre le sida, parce qu'à l'époque, le vaccin à trouver, c'était contre le sida, et c'est toujours à trouver. J'étais très en forme, et donc j'avais appelé en disant si on trouve un vaccin contre le sida, je débouche une capote et je baise une bouteille de champagne. Eh bien, c'était passé. c'était passé. Et donc, j'avais entendu ma voix dans le poste et j'étais très, très fière. Parce que j'étais passée de l'autre côté.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, avec les répondeurs du répondeur.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc, un rapport plus du son à la voix, en fait, et toujours à cet espace-là qui est occupé, de l'autre côté du poste. Il y avait quelque chose comme ça sur les disques, les vinyles, pour le coup, à l'époque, il y avait un Piccolo et Saxo, qui est aujourd'hui encore écouté par les enfants, c'est assez génial. Et Piccolo et Saxo, en fait, je pense que ça n'existe plus aujourd'hui, sauf en vinyle, quand on arrivait sur la première face à la fin. Mais où est-ce qu'on voit ? Ne t'inquiète pas, Piccolo, nous allons de l'autre côté du disque. Puis ça fait chut, 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 chut. Et c'était génial, parce qu'il y avait un rapport au temps. Il y avait un rapport au temps, c'est-à-dire que la cassette avait une fin. Voilà. Le disque aussi. Et maintenant, on met on. C'est très bien et super. Enfin, je veux dire, il ne s'agit pas de nostalgie hein, par rapport à ça. C'est juste un rapport différent voilà, au temps et à ces espaces-là qui étaient proposés.
Où allons-nous ? Demandait Piccolo.
Ne t'inquiète pas, Piccolo, nous allons de l'autre côté du disque.
Un enregistrement réalisé le 26 novembre 2020.
Danse, danse, danse sur la radio.
Histoire de radio.
Je sais que ce silence-là existe, et que donc il y a c'est une qualité de silence, et que donc sous tout ce que je peux entendre, il y a un silence qui existe là-bas. Enfin voilà, pour te dire de quelle façon ça met en relief les sons qui sont nés ensuite.
Delphine Bretéché.
J'avais demandé à Noël, et alors j'avais eu... je devais être quoi, en collège, les gros postes radio. Et alors, le truc absolu, c'est que les baffes se détachaient. Et alors là, quand j'ai reçu le cadeau, en plus, mes parents n'avaient pas énormément de moyens, quoi, donc je pense que ma grand-mère avait participé. Alors, ce truc était... Mais je suis restée dans le canapé, mais juste à l'avoir sur les genoux, en fait, avec une main de chaque côté des baffes, en disant oh! Et en faisant clang, clang, parce qu'il y avait les... Et en fait... mon père avait choisi ce modèle-là parce que quand on appuyait sur éject, ça faisait pas de bruit. Ça glissait doucement. Alors je pense que ça a dû faire le même effet à certaines personnes d'avoir un tiroir dans la cuisine qui se referme pas vite, mais avec un. Mais alors moi, ce truc qui s'ouvrait doucement, c'était voilà, jouissance absolue, quoi. Quand on lit un bouquin ou quand moi je lisais des bouquins, j'étais sur le ventre. J'étais sur le ventre et j'étais plongée. Enfin ouais, il y avait ce rapport avec le sol. La musique, c'était sur le dos. Et je pouvais détacher les baffes et un espèce de gros Walkman, je me les mettais de chaque côté des oreilles. Mais dans la classe, il y avait ceux qui écoutaient les émissions de radio. Je ne sais plus si c'était sur un Skyrock ou un Energy ou quoi, mais il y avait des dédicaces possibles. Et donc le truc dans le collège, c'était qui allait passer à la radio pour faire des dédicaces. Et donc il y avait des filles qui étaient super fortes pour ça, pour faire ces dédicaces. Moi, ça ne me parlait pas vraiment, en fait. Moi, je voyageais sur la... Il y avait vraiment cette idée de voyage. Je voyageais sur la bande FM et chopais des trucs, des conversations et voilà, des gens qui parlaient. Ça me... Donc après, plus tard, les rendez-vous de radio... Dans la chambre de Bonne, il y avait des émissions de France Inter ou de France Culture qui étaient les mêmes que lorsque j'étais petite et qui faisaient un espace familier et rassurant. Je me souviens depuis longtemps de mes rêves, il y avait une émission comme ça... comment il s'appelait, qui racontait, un homme qui racontait voilà, des histoires... Je vous écris du plus lointain de mes rêves. C'était comme ça, avec une... Voilà. Bon, des voix comme ça, qui, je pense, me rassurait aussi, en fait, hein, mais de rendez-vous particulier avec... Alors si, les fictions sur France Culture, forcément.
Cosma, bon, et malheureusement, ils se fâcheront un peu plus tard, Prévert et Cosma, parce que Cosma va, disons, s'afficher un peu trop avec le Parti communiste. Or, Prévert, lui, bah, il avait des idées progressistes, mais il ne voulait appartenir à aucun parti. Et, entre autres, il avait dit, quand quelqu'un lui avait suggéré d'être au Parti communiste, il avait même dit avant la guerre, il a dit, moi, au Parti communiste, j'aurais trop peur d'être en cellule.
J'avais été au cours Florent quand j'étais à Paris et ce que j'aimais bien, c'était écrire des textes pour les amis, en fait. Il y avait souvent besoin de textes pour faire une scène, pour quelque chose. Et alors moi, ça, j'adorais. Je réécrivais des courtes scènes en me disant, bon, alors voilà, cette personne, je la connais. Qu'est-ce que... Le truc qui me faisait vraiment partir, c'était, voyons, dans ce personnage-là, alors pas dans ce personnage, mais dans cette personne-là que je connais, quel personnage ça pourrait m'inspirer sa façon de bouger, sa voix, qu'est-ce que ça m'amènerait vers quel personnage, voilà, des choses comme ça. Et puis à Paris, ben, il se passait plein de choses aussi, donc pour l'écriture c'était très... Il y avait un rapport très ludique, je gambadais dans l'écriture, enfin vraiment, mais c'était à côté, c'était sans idée de forcément en faire quelque chose. C'était là. Et donc, il n'y avait pas de rapport à la radio ou au son ou aux enregistrements. Il n'y avait pas ça. Les seuls enregistrements que je faisais, c'était des messages audio pour mon répondeur, donc qui changeaient très très souvent. Et il y en avait un, une fois, je hurlais sur le répondeur, « Il n'y a personne !» Et donc, après, j'avais deux messages de copains qui étaient morts de rire au téléphone. Et puis après, il y avait le message de ma grand-mère qui était « Mon Titi, ça va pas ?» Et donc, j'avais rappelé ma pauvre grand-mère à qui j'avais fait une frayeur. Mais voilà, donc, je suis revenue à Nantes après ce passage à Paris. Et j'ai fait l'école des Beaux-Arts. Et c'est en sortant de l'école des Beaux-Arts, pendant les 5 ans pendant lesquels j'avais écrit, en fait, beaucoup. Et en sortant, je me suis dit, mais là, j'aurais fait de la radio. Et je connaissais la radio GTFM pour l'écouter. Et puis, ça me semblait une radio accessible, en fait. Et donc, j'ai écrit à monsieur le directeur de la radio de GTFM en disant, ben voilà, je m'appelle Delphine Bretéché, je souhaiterais faire de la radio... j'ai l'idée de faire des histoires de 3 minutes. Ça s'appellerait Les Chroniques de Madame Hugues. Et voilà. Et j'ai fait une lettre, j'ai fait un courrier, en fait, à l'époque. Et donc, j'ai été reçue par monsieur Éric Pessan, qui, à l'époque, était directeur de cette radio-là. Et on commence à parler. Et il me dit, à un moment, il me dit, mais là, voilà, tu veux faire des chroniques, tu veux faire une fois par mois. Je dis, non, je voudrais en faire une fois par jour. Ok. Et c'était tellement caricatural de la jeune femme qui sort des Beaux-Arts et qui veut faire une fois par jour, mais qui évidemment n'en a enregistré encore aucune, hein, bien sûr. Donc, vraiment adorable, Eric me dit, écoute, là, c'est les vacances. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas pouvoir venir enregistrer. On va te montrer comment faire. Et puis on fait le point en septembre. Voilà. Et en septembre, j'avais 2 mois d'avance d'enregistrer. J'étais à fond. Et donc, il y a eu un an de chronique de Madame Hugues qui était des courtes fictions avec un protocole. Puisque le générique était chanté, le début commençait toujours par Madame Hugues, bonjour. Se déroulait une histoire et se terminait par « si toi aussi », et puis alors là, il y avait un rapport à l'histoire qui s'était déroulée, « si toi aussi t'as été en voyage en camping-car, eh bien envoie une carte à Madame Hugues, et puis il y avait l'adresse de JTFM, et ça a duré à peu près un an. Et donc, il y avait Laurence qui était là, parce que Eric est assez vite parti, puisque lui, Il avait son premier livre qui sortait et il engageait sa carrière d'écrivain. Et donc, Laurence Aubron. Et c'était un vrai bonheur d'enregistrer parce qu'il y avait certaines chroniques qui étaient enregistrées, donc je les enregistrais. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient faites en direct. Hein. Et comme c'était le matin très tôt, voilà, j'ai vraiment des souvenirs de lumière rose du matin et d'avoir Laurence derrière la vitre. Et en fait, de performer la lecture pour la faire rire. Quoi. Enfin, c'était cette idée aussi de partage et de rire.
Jet FM 91.2.
Alors, il y avait un personnage dans cette chronique-là qui était Madame Hugues. Donc, c'est différent des lectures performées que je vais pouvoir faire après. Là, il y avait l'idée du personnage qui fait sa chronique. Donc, j'imagine qu'entre les premières et les dernières, il y avait évidemment une modification au niveau du ton, mais il y avait quelque chose de très narratif avec un personnage. Et ensuite, dans mon écriture, moi, je me suis détachée de ça, en fait. Et puis, les lectures, dans les lectures performées, dans la poésie, après. Ça s'est évidemment transformé par le travail, mais il y avait quelque chose dehors d'une bulle avec cette Madame Hugues qui était un personnage. Et alors, j'ai eu l'occasion de poser des questions pour certains. Elle avait 50. Voilà, c'était une. Mais pour d'autres, elle était plutôt jeune. Enfin, voilà, elle avait une espèce d'entre-deux un peu particulier. Elle était plutôt remontée sur plein de trucs. Enfin, voilà, enfin, vraiment le côté. Mais déjà, c'était assez. Assez classique dans la forme de la chronique plutôt en général humoristique. Par rapport à ce que ça m'a donné, ben, j'ai apprivoisé ma voix par exemple, puisqu'on a la voix dans un casque. Alors, sans doute parce que je suis mégalo, artiste, tout ce qu'on veut, mais j'ai jamais eu de problème avec ma voix. Souvent on dit on n'aime pas sa voix ou quoi. Moi je l'aimais bien parce que, alors soit c'était dans la négation parce que c'était pas moi en fait, enfin, c'était quelque chose qui était transposé de toute façon, soit aussi le fait de l'avoir beaucoup travaillé en théâtre ou quoi, on l'apprend aussi sa voix. Donc par rapport à ça, il y a eu cette idée de la travailler au casque. Et de sentir en fait de quelle façon pouvaient se moduler les choses très finement puisque c'est au micro. Et où là il va y avoir des choses très fines qui vont pouvoir passer. C'est un travail très, très différent de celui du théâtre. Quoi.
Voici tout de suite Crucifiement de Delphine Bretéché.
On chevauchait des anglaises, cadre BM customisé, mitaine en cuir, effeuillage de fausses squaws. Sifflet à deux doigts, gilet sans manches, casquette sudiste, bague à chaque doigt.
Je pense que cette expérience de Madame Hugues, en fait, m'avait plu et avait permis d'explorer quelque chose par rapport à ça. Ce qui m'intéresserait sur la fiction en fait radiophonique, effectivement, ça serait de l'écriture. Et j'ai fait un stage à Arles avec Phonurgia sur les nouvelles écritures radiophoniques. Et donc on a pu travailler là effectivement sur les enregistrements, sur le son, et puis sur des pièces qui ne soient pas justement narratives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit avec le son. Et ça c'est assez passionnant. Donc ça moi je l'ai travaillé ensuite. Je l'ai travaillé, alors, une première partie que j'ai travaillé avec la commande publique du tramway du Mans, que j'ai co-réalisé, et où là, il y avait une partie des œuvres sonores qui étaient... de la créa sonore. Donc, et là, de la créa sonore à partir du concret. Et ça, c'était vraiment formidable d'entendre, de construire ces rythmes à partir de sons piochés dans le réel. Et pour la dernière résidence que j'ai faite à Marseille, je faisais des enregistrements sonores. C'est-à-dire que dans le protocole de résidence, j'étais 5 semaines dans 5 appartements différents, dans 5 foyers différents. Et puis ensuite, j'avais 3 semaines dans un appartement de résidence. Et donc, j'enregistrais des sons des endroits où j'étais et aussi des rues, des quartiers où j'étais. Et ensuite, je faisais une créa sonore, je dirais, d'environ 3 minutes. Hein. Oui, c'est ça, oui, 3 minutes. Qui était une traversée de ces sons-là et de cette matière sonore. Donc aujourd'hui, dans ce que j'aime faire, c'est à la fois me plonger dans une construction dans des créas sonores et également le côté de lecture performée et de la voix, en fait. C'est des domaines qui me passionnent toujours. Oui.
Goya.
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 Mais tu parlais du flux. Et je... Le flux, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour la radio. Mais tu vois, en pensant ça, en définition, en fait, il y a des radios. C'est ça qui est assez extraordinaire avec ce médium. De quelle façon est-ce que la radio va fonctionner et se transforme. Il y avait un rendez-vous avant. Il y avait le poste TSF. Il y avait un rendez-vous avec... je sais pas moi, Ménie Grégoire, ou Françoise Dolto, ou les informations, le 13h, enfin voilà, des choses comme ça. Donc sur ce vecteur-là, d'une part d'information, alors que maintenant les sources sont vraiment multiples, mais je trouve cette spécificité-là toujours opérante, en fait. J'ai pas une définition très précise de la radio. Moi, je fonctionne encore avec un transistor, par exemple. Ça va sans doute bientôt changer, mais pour l'instant, ça me va bien, cette idée de l'objet aussi. C'est multiples usages, donc je te réponds sur l'usage et pas sur, et pas sur la définition, mais j'ai pas une définition particulière, peut-être, sur la radio. Hier, une émission sur France Culture, sur les migrants et notamment les femmes migrantes, et un son enregistré. Alors, je suis très émue. Mais c'est ce qu'on vit en ce moment. Enfin, la radio, elle nous met à côté de ces gens. Et la femme hurlait « I lost my baby ». C'est des gens qui venaient d'être sauvés. Mais d'être sauvée, cette femme, elle avait perdu son enfant. Et avec la radio, c'est à nos oreilles qu'elle le hurle. Donc de quelle façon le son aussi peut nous interpeller. Si je veux pas voir une image, ferme les yeux. Pour se boucher les oreilles, heureusement, c'est plus compliqué.
I lose my baby. I lose my baby. I'm not going to see my baby. I'm not going to see my baby. Come on, come on. I lose my baby.
Parfois. Dans un cimetière, mais un passage, vous évoquiez, Claire Denis, le cas de cette femme qui a accouché après avoir quitté la Libye. Là, on entend celui d'une autre femme, une mère. C'était vendredi dernier en mer Méditerranée lors d'une opération de sauvetage menée par le navire Open Arms. Une femme sauvée de la noyade qui cherche son bébé. Où est mon enfant? Où est mon bébé? Je l'ai perdu.
Un enregistrement réalisé le 26 novembre 2020.
Danse.
I'd like to think I'm misunderstood. She's playing hard to get, she smiles from time to time. It only takes the cameras to change her mind. Drinking just champagne, and she is rejecting nearly all the men. She's playing a game, and you can hear them say,
she's looking good for beauty, we will pay.
Yeah.